RMC, 18h-21h, Intégral Sport, Martial Fernandez.
Il est 20h06 sur RMC, c'est l'heure de poser vos questions pour tout savoir sur le Tour de France. Le 32-16 est ouvert, le compte Twitter et le hashtag RMC Live. Et avec moi Thierry Bourguignon est là. Bonsoir Thierry, rebonsoir.
Rebonsoir Martial.
Alors Thierry Bourguignon, Thierry, on a vu une belle étape aujourd'hui, un contre-la-montre. Avec plein de suspense, avec à l'arrivée, on a le sourire de Français finalement sur le podium du classement général. Jean-Christophe Perrault qui vient chipper cette deuxième place à BA après un beau chrono, qui passe devant Thibaut Pinot. Perrault qui a terminé septième de ce chrono remporté par Tony Martin, septième à 2.27, alors que Thibaut Pinot a terminé douzième à 3.12, c'est-à-dire qu'il lui a repris 45 secondes, alors que ce matin, il était à 13 secondes. Ça veut dire qu'il vient lui prendre la deuxième place. L'autre candidat au podium, c'était Valverde, beaucoup plus compliqué pour lui, hein, ce contre-la-montre. Valverde qui termine à la 28e place, à 4 minutes 28 du vainqueur Tony Martin. Maillot jaune, lui, sans souci, quatrième aussi de ce chrono, à 1.58, Thierry. Donc évidemment, un très 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 beau chrono avec Thierry, Jean-Christophe Perrault, qui a eu un petit souci quand même, une crevaison qui lui a fait perdre une vingtaine de secondes. Et puis finalement, est-ce qu'il a eu temps d'avoir peur, d'après toi, pendant ce souci, ce changement de vélo là avec cette crevaison?
Ah bah forcément, parce que quand t'es en chrono, tu sais que ça va se jouer à très peu. Il était peut-être renseigné, mais à la seconde près, je ne pense pas. Et quand on crève, ben un changement de vélo, ça prend. Il y a décélération, arrêt, reprise de du nouveau vélo et repartir, se remettre dans l'allure, et ben ça prend minimum 20 secondes. Mm-hmm. 20 secondes. Et comme on savait que ça pouvait se jouer très peu, et ben il a eu raison d'avoir peur et ça l'a peut-être remotivé encore un peu plus.
On a Luc Leblanc qui vient de nous rejoindre. Rebonsoir Luc.
Rebonsoir.
Avec le 32-16. On parlait de la crevaison de Perrault, Luc, et je demandais à Thierry si quand on est coureur comme ça, on a le temps de cogiter quand on court après chaque seconde en se disant aïe aïe aïe, peut-être que c'est là que c'est en train de se jouer ou on est dans son truc.
Ben on cogite toujours un petit peu, mais le chrono, on est tellement concentré que quand on a les écarts de notre directeur sportif derrière et que les écarts sont toujours bons pour le coureur, ça nous fait avancer un peu plus vite et on prend de plus en plus confiance, donc et ça donne encore plus d'énergie. Donc plus le chrono avance sur l'arrivée, plus on est dans le positif. Donc voilà quoi.
Alors Thierry,
non, c'est bon.
Vous parlez des chronos. Je rappelle juste que par exemple Thibaut Pinot, il avait son oreillette et Yvon Madiot, son directeur sportif, qui était dans la voiture derrière, apparemment. Il y a du monde avec toi, Luc, là, non, j'ai l'impression.
Eh ben on est à Périgueux, on est dans le Périgueux.
Hein. coupe.
Il y a de l'ambiance dans le Périgord.
Ouais, il y a de l'ambiance. On a Jonas au 32-16 qui nous appelle. Bonsoir Jonas.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Jonas.
Vous m'entendez? Ouais, c'est bon.
Bonsoir Jonas.
Oui.
Moi j'avais. C'était pour réagir plus. C'était il y a un petit moment déjà. C'était pour réagir au fait que des Français dans les premiers l'année prochaine, enfin, ou dans les années à venir là.
Allez-y Jonas, précisez.
Ouais, non, bon, c'est pour dire que non, ça arrivera pas pendant plusieurs années, je pense.
Il y aura plus de Français dans les 10 d'après vous dans les années viennent.
Dans les 10, l'année prochaine, il y en aura peut-être un ou deux dans les 10, mais que pour remporter le tour ou même sur le podium, on n'est pas prêt de le revoir, je pense.
Ouais, mais ça c'est la même chose que dire que on va avoir un podium français l'année prochaine. C'est exactement la même chose.
Non, il y aura pas de podium l'année prochaine pour les Français.
Mais c'est la même chose. C'est utopique de penser que l'année prochaine on retrouvera pas ce cas de figure. Et qu'est-ce qui vous fait dire des choses comme ça?
Comme il y en a qui l'ont précisé. Bon, il y a eu des faits de course, des leaders qui sont tombés. Mais bon, ils reviendront sûrement plus forts. Et il y en a d'autres qui seront là comme Quintana, même ceux qui ont fait 2 et 3 sur le Giro cette année. Donc voilà, je pense que ça va être compliqué parce que
on sait jamais ce qui peut se passer.
Il peut y en avoir d'autres qui tombent ou quoi, ou des pleines.
Les faits de course existent toujours. Hein. Chaque année, il y a des faits de course qui font que Là, c'est vrai que cette année, on a eu deux grands leaders qui sont tombés. C'est une chose exceptionnelle.
Voilà. C'est comme vous dites, c'est exceptionnel parce que si, allez, admettons, il y en a un seul qui tombe, à mon avis, c'est loin d'être la même course parce que ça soit Pinot ou Bardet ou Perrault, il y en a pas un qui, enfin, si on met, par exemple, que ce soit Contador, le meilleur cycliste de tous les temps, c'est, à mon avis, il place des attaques, il dynamite le peloton, à mon avis, que ça soit Pinot, Bardet ou même Perrault, ils avalent la trompette en 3 secondes.
Avaler la trompette, j'aime bien ça.
Ouais, voilà. Non, mais c'est pour dire que voilà, là, enfin, bon, c'est bien, moi aussi, j'ai bien aimé le tour, les Français, les trucs. Mais bon, si à la place des 3 Français, c'est un Polonais, un Grec et un Suisse, on se dit qu'on s'est fait chier tout le tour. Hein. Parce que hier, par exemple, l'étape, là, ça se finit au Takam. Et franchement, c'était d'une tristesse. Le seul truc qu'il pouvait y avoir d'un peu
avant-hier.
Passionnant. Ouais, pardon, excusez-moi, avant-hier. Ouais, le seul truc qui aurait pu y avoir d'un peu passionnant sur le Takam, c'est que le seul truc qu'on attendait, c'était que Valverde quoi craque complet, hein, parce que il y en a aucun qui est capable d'attaquer. Enfin, Nibali, il s'est frisé les moustaches pendant 3 semaines. Hein. Il a rien eu à faire. Il y en a pas un qui a été. Même si on est à 5 minutes, 7 minutes, voilà, comme vous dites, il y a toujours l'effet de course. On n'est pas à l'abri qui tombe. On se rappelle de Ulrich qui tombe au contre-la-montre le dernier avec Armstrong. S'il tombe pas, il gagne le tour. Enfin, on n'est pas à l'abri qu'il lui arrive un truc, une crevaison comme aujourd'hui ou quoi. Mais personne n'a osé l'attaquer. Enfin, c'était
Et vous n'êtes pas régalé dans ce tour, Jonas, j'ai l'impression?
Non, sincèrement, non. Enfin, je me suis fait un peu prendre au jeu des Français. Mais sinon, non. Parce que voilà, comme je vous dis, si les 3 Français, ces 3 autres nationalités, on se dit qu'on s'est ennuyé vraiment, non? Je sais pas vous, mais...
Oui, Jonas,
vous êtes peut-être le seul à dire qu'on s'est ennuyé sur le tour.
C'est pas le seul. Hein.
Non, bien sûr qu'on s'est pris au truc des Français, du truc. Mais voilà, Nibali, lui, il s'ennuie, Nibali. Il n'y en a pas un qui a été capable. Enfin, voilà, quoi. Il a monté au Takam, en marche arrière, il est allé aussi vite. Non, enfin, voilà, je veux dire. Non, j'exagère sûrement un peu. Non, mais je veux dire, voilà, c'était quand même.
Non, à peine.
un peu. Non, mais je veux dire, si c'est pas 3 Français. On peut dire qu'on sait. Voilà, il y en a pas un qui est capable d'attaquer. Bardet, là, c'est le moment qu'il attaque, c'est en descente.
Et pourquoi pas C'est pas vrai, non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. En fait, vous faites un résumé un peu rapide de la course. Je pense que ce qui vous a dérangé, c'est qu'on puisse pas attaquer, qu'il n'y ait pas un adversaire à la hauteur de Nibali. Mais autrement,
mais au moins essayez quoi.
Mais oui, mais le problème, c'est qu'il était tellement au-dessus, c'est que la course s'est faite entre pour la deuxième place, la troisième et la quatrième. Ouais, voilà, c'est simplement ça.
Ouais, mais après, par contre, pour ça, il n'y a rien à dire. Pour ça, c'était vraiment passionnant.
Ben voilà, c'est
y a pas photo. Là, mais c'est aussi peut-être parce que c'était français, non? Vous pensez pas? Parce que si c'est d'autres nationalités, on dit qu'il n'y en a pas un qui est capable d'attaquer, d'exploser le truc. Enfin, moi, au Takam, je l'ai attendu toute la journée. J'ai pas dormi. Je me suis dit, oh là, ça va être, au moins, ça va s'envoyer et tout. Mais non, le seul truc qu'il pouvait y avoir de passionnant, c'en est un qui craque. C'en est un qui craque. Pinot, il attaque.
Le problème, c'est...
Si un Contador à côté, il le regarde, il rigole. Il lui dit, attends, je te montre. Et, après, non, voilà. Ouais, c'est pas pour dire qu'ils sont, que c'était nul ou quoi, mais je veux dire, ça va être très dur de réavoir un cas de figure comme ça. Et à mon avis, pour gagner le Tour dans quelques années, ça va être quasiment impossible. Et même pour finir une nouvelle fois sur un podium dans les 5 ans à suivre, à venir là, je pense pas. Après, c'est personnel.
Il faut pas dire ça. Il y en a plein qui arrivent derrière. Si ça se trouve, le Français qui va gagner le Tour dans les 3-4 ans, c'est peut-être pas ceux qui sont sur le Tour aujourd'hui, quoi.
Ah oui, bien sûr, c'est possible. Mais voilà, après, comme il y a plein d'autres nationalités aussi, voilà, faut pas trop s'emballer non plus. Parce que.
On s'emballe pas, on
profite.
Vous vous emballez, bien sûr, vous avez raison de profiter heureusement. Non, mais pour le truc des Français sur le podium, c'est énorme. À Paris, demain, c'est énorme.
Bon, c'est déjà bien. Qu'on profite du moment présent. C'est sûr que l'année prochaine, dans un an, on sait pas ce qui va se passer. Hein. On sait pas les coureurs qui seront en forme au moment voulu. On sait pas si ces mêmes coureurs seront tous là. Voilà.
Les années sont longues, il y a d'autres courses.
Donc, profitons du moment présent. Qu'on a vu un très beau tour, surtout pour les Français.
Merci Jonas.
Surtout pour les Français. Voilà.
Merci Jonas.
Je te rejoins là-dessus.
Voilà. Bon, allez, bonne soirée. Merci.
Bonne soirée, Jonas.
Bonne
merci
soirée.
D'avoir appelé au 32C.
Vous n'avale aussi... pas la trompette. Hein.
Vous avez aussi le hashtag RMC Live pour poser vos questions. On a Bruno au 32C. Bonsoir, Bruno.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Bruno.
Oui, simplement, moi, je voulais revenir sur Pierre Roland. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup des Français, bon, des deux premiers, bravo à eux. Tout simplement, Pierre Roland était quand même un super espoir. Il s'est risqué cette année de faire le Giro, il s'est quand même 4. Là, il a enchaîné Giro Tour, je crois qu'il est 11e aujourd'hui, je sais
c'est
pas.
C'est sa 11e, 11e, oui, finalement, 11e, 23 minutes.
Donc, pour moi, c'est quand même c'est un très bon coureur. Et si c'était pas risqué au Giro, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui, par rapport à lui, quel niveau il aurait, je sais pas, je m'interroge. C'est vrai qu'on parle pas de Pierre Roland.
Ah non, on a parlé, du moins à partir nous on l'a toujours cité, il était toujours dans les 10 premiers. Il y a des moments où il revenait dans le classement, il y a des moments où il ressautait, ce qui fait que vous l'avez dit, c'est la participation au Giro, il le savait que ça allait être très difficile d'être dans les premiers postes,
les premières
attaques, oui, du Tour de France. Mais franchement, il a eu un très bon comportement. On peut dire 11e, c'est clair. Après, c'est sûr. Est-ce que vous avez entendu aujourd'hui parler de celui qui avait gagné, Tony Martin. Mais oui, mais Tony Martin, il aurait fait deuxième, c'était pareil. Parce qu'en fait, tout le monde était focalisé sur la performance des Français, la deuxième, troisième et quatrième place. Voilà. C'est l'actualité qui a fait que on a parlé beaucoup plus de Bardet, de Perrault et de Pinot que des autres Français. Parce qu'il y a pas mal de Français dans les 20 premiers aussi. Hein. Ouais, ça aussi, il faut le dire.
Oui, Bourgui, sur les 10 premiers du classement général aujourd'hui, combien en fait Giro?
Ah oui, il y en a aucun. Il y en avait deux qui étaient au Giro, ouais. Je crois. C'est d'accord. Lui celui qui gagne les deux étapes.
Machka.
Les deux.
Qui avait fait 9e.
Machka a fait deux performances, mais bon, voilà, il a fait des éclats en montagne de. Deux victoires plus une place de deux en montagne, c'est exceptionnel.
Ouais, donc il y a une incidence directe quand même en participant au Giro et en enchaînant le Tour derrière, quoi.
Ah oui, c'est pas pour rien que très peu s'y frottent. Hein. Enchaîner le Tour après le Giro, c'est trop proche pour que ce soit bénéfique. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui parlent aujourd'hui de ceux qui ont fait le Tour de participer. Je crois que Pinot a dit qu'il allait se reposer et se relancer sur la Vuelta.
Oui.
Il compte faire la Vuelta, mais oui, ça va vite, mais il y a un peu plus de temps que le Giro et le Tour.
Tout à fait.
Merci Bruno de nous avoir appelé.
Bravo à tous et merci.
Merci, à bientôt.
Bruno, merci.
À bientôt.
Merci, au revoir.
On a Micheline qui est avec nous. Bonsoir Micheline.
Bonsoir à tous. Bonsoir, je suis ravie de vous entendre. C'est un bonheur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je voulais simplement dire que j'avais vécu une étape formidable aujourd'hui. Mais vraiment, il y a longtemps qu'on attendait ça. Ça fait un peu plus de 40 ans que je suis le Tour de France. Quand j'étais toute petite, je regardais ça avec mes parents. Je me souviens d'un duel Poulidor-Antille au Puy-de-Dôme ou je ne sais où. Et voilà. Et ça a été un pur bonheur. Merci, merci. Enfin, c'était temps.
Bah écoutez, on est ravis que vous soyez contente. Et nous, on a vécu la même chose sur le Tour, hein.
Ah oui, et puis de vous écouter, c'est un plaisir tous les soirs. Vraiment, c'est un plaisir, un bonheur. Et puis de bons souvenirs avec Lucho et Bourgui, vraiment. C'était génial et j'espère de tout cœur, vraiment, une réflexion. J'espère qu'elle ne sera pas malvenue, mais j'espère de tout cœur qu'on n'aura rien volé aux Français. C'est tout.
Non, ben ça c'est clair. Non.
On l'espère aussi, on n'est jamais à l'abri de choses pareilles.
Ben oui, mais j'espère franchement parce que cette année, et puis surtout un grand merci à tous ces coureurs, quels qu'ils soient, et même le dernier. Même.
Voilà.
Vous
avez raison.
Les acteurs, voilà un message positif.
Merci pour votre émission, c'est génial de vous entendre tous les jours. Génial.
Ben merci à vous, c'est gentil. Hein.
Merci.
Merci Micheline.
À bientôt,
au revoir au 32-16. À très vite. On a Gilles qui nous a appelé au 32-16. Bonsoir Gilles.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous m'entendez, oui.
On vous entend
bien. Oui, on vous entend bien.
D'accord. Alors en fait, moi je voudrais poser ma question, que c'était par rapport en plus à l'auditeur d'avant. Moi, je partage pas tout à fait son enthousiasme par rapport à Alberto Contador, parce que l'année prochaine, s'il revient dans le tour, ça fera 6 ans en fait. Ça fera 6 ans qu'il n'a pas gagné le tour, et la concurrence n'est plus la même qu'avant avec Evans ou comment Andy Schleck. La concurrence est quand même beaucoup plus forte, et ces dernières années, il a été mis en échec face au Quintana, face au Froome. Même Nibali, il a été moins fort que ces coureurs-là, et en plus, je trouve qu'il a plus la même giclette en montagne qu'avant. Et moi, je suis pas sûr que 6 ans après, il peut être le premier coureur à regagner le tour. Donc, je voudrais avoir votre avis sur Contador. Je pense qu'il peut faire des places, mais je suis pas trop convaincu qu'il puisse maintenant être plus fort que Quintana ou que Froome, par exemple, ou même Nibali, en fait.
En tous les cas, cette année, il était préparé pour venir gagner ce tour. Il était avec une grande équipe. Il avait la condition optimum. Après, le sort en a décidé autrement. L'année prochaine, ce sera peut-être encore un peu plus dur parce que, comme vous le dites, une année de plus. Le petit problème qu'il a eu va le laisser en convalescence pendant quelques mois. Et ensuite, il faudra se relancer avec une année de plus et puis des adversaires différents. C'est toujours pareil. On ne connaît pas les adversaires qu'ils vont avoir. On ne sait pas qui sera présent au Tour de France 2015.
Bah oui, c'est ça, parce que ça dépend aussi après du découpage des grands tours. Mais bon, je pense que même si Nibali, l'année prochaine, en tant qu'Italien, il ne fera pas une deuxième année le Giro, je pense que sauf blessure, il aura quand même en face de lui au moins Quintana et Froome. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, ça fait quand même 2 ans et demi qu'il est mis en échec, ça fait ces coureurs-là, il n'arrive plus forcément à les battre. Je suis pas convaincu qu'il puisse vraiment, surtout que les chiffres sont là, ça, jamais personne n'a gagné un tour avec 6 ans d'intervalle. Je pense que ça commence peut-être un peu à peser pour lui aussi, je pense que le poids des gens, enfin je sais pas, mais...
C'est clair, c'est clair, hein, vous l'avez dit.
Hein, Hino a gagné le tour avec 7 ans d'intervalle, hein, c'est possible, hein, 78-85. 78-85. Ça fait 7 ans.
Non, oui, mais il a gagné ses 5, il les a gagnés sur 6 ans. Non, mais.
Non, il y avait 7 ans, je vous assure. 78-85, ça fait 7 ans.
Mais oui, non, mais je veux dire, l'avant-dernier, il l'a gagné en 82, et le dernier, il le gagne en 85. Oui, il n'y a que 3 ans d'intervalle, tandis que Contador, son dernier, c'est en 2009. Donc, c'est pas pareil.
Un écart entre 2 tours gagnés, d'accord, c'est ça que vous voulez
dire. Oui, c'est ça, un écart. C'est jamais arrivé, en fait, qu'il y ait un écart aussi long entre 2 tours gagnés. Donc, ça me paraît que, surtout qu'on a vu quand même qu'il a été mis en échec, même maintenant, en fait, quand il gagne des courses, il ne fait plus des écarts sur une montée finale. Il attaque toujours un petit peu avant, en plus.
Faudrait remonter à Bartali pour avoir un écart de 10 ans, donc ça remonte, hein, c'est sûr.
Oui, mais on l'a vu gagner de grandes courses et de belles courses cette année, hein, et puis de belles façons surtout. Hein.
Oui,
donc après on ne sait pas. Je peux pas vous affirmer que l'année prochaine il sera bon ou pas bon. Il y a tellement de.
Les courses qu'il gagne, il n'est pas opposé, en fait. J'ai remarqué que c'est des adversaires qui sont plus des outsiders. Et quand il gagne une course, maintenant, comme le Tirreno Adriatico, bah, il part, mettons, 40 km avant l'arrivée, et puis il fait des écarts comme ça. Mais je crois que dans un grand tour, face à des Froome ou des Nibali, il ne pourra pas le faire, parce qu'ils ne le laisseront pas partir. Donc, mettons, sur une montée finale, moi, maintenant, sur une montée finale, j'ai des doutes qu'il puisse quand même être supérieur à ces coureurs-là, en fait.
Bah, sur ce tour, il était capable de le faire, en tous les cas. Bon, il a fait puisqu'il était absent. Mais il avait la condition optimum pour taquiner Nibali et Froome. Après, le sort en a décidé autrement. Nibali a été meilleur sur les chronos, sur les pavés. Et il avait fait quand même un écart de 2,30 et après 2,30, fallait aller les chercher.
Merci Gilles.
Ah ouais, c'est pour ça que je vous dis ça. Moi, je pense que ça aurait été un mano à mano entre les deux hommes, mais au bout du compte, un mano à mano entre les deux hommes, on aurait été loin des 2,37 à la fin de récupérer par Contador, moi je pense.
On ne sait pas.
Merci beaucoup Gilles d'avoir appelé au 32-16.
Prie,
à bientôt. À bientôt. Thierry Luc, on va aller faire un petit tour du côté de la salle de presse de la zone d'arrivée. On avait eu les larmes de Jean-Christophe Perrault juste après la ligne et Olivier Schwartz qui était là-bas pour RMC Sport. Salut Olivier.
Salut Marcel, bonsoir à tous.
Alors Olivier, tu as assister à, on va dire, une nouvelle séquence émotion avec Jean-Christophe Perrault il y a quelques minutes. Hein.
Oui, craquage complet de Jean-Christophe Perrault qui s'est fait attendre en salle de presse, la faute à un contrôle antidopage qui a duré plus longtemps qu'il ne l'aurait souhaité sans doute. Hein. Il n'arrivait pas à satisfaire un besoin naturel nécessaire à ce contrôle antidopage. Et lorsqu'il est arrivé en salle de presse, on le sentait encore marqué. Alors vous l'avez entendu juste après la ligne, on peut comprendre évidemment les émotions qui le submergent juste après l'effort, parce que l'effort a été violent. Mais là, on était quand même 2h15 après, et on a senti tout de suite que Jean-Christophe Perrault était encore très à fleur de peau, très touché par tout ce qui lui était arrivé, toutes ces émotions qu'il vit depuis qu'il a franchi la ligne tout à l'heure en fin d'après-midi ici à Périgueux. Et à la 4e ou 5e question, vraiment très très rapidement, il a complètement été submergé par de gros sanglots. Il avait les épaules qui montaient toutes seules d'une certaine façon. Il s'est pris la tête à deux mains et il a tout simplement de demander aux journalistes de, bah de, il s'est excusé hein, en disant écoutez voilà je crois qu'il faut que j'aille dormir. L'ensemble de la salle de presse l'a applaudi pour l'accompagner à sa sortie. Jean-Christophe Perrault très touché nerveusement, on le sent aussi très atteint physiquement, mais on va dire tout ça est finalement très normal. Très très humain finalement dans cette réaction. Vous l'aurez compris, qui a suscité bien sûr la compréhension totale de la salle des journalistes.
Ça donne une idée de la tension, hein, Thierry et Luc, qu'a pu vivre Jean-Christophe Perrault sur ses dernières 48 heures, on va dire, avec ce podium.
Il est complètement en train de décompresser maintenant. Là, ça y est, la tension, elle rebaisse complètement. Et là, toute l'émotion qu'il a pu avoir pendant le tour, et notamment la pression qu'il a pu avoir avant le contre-la-montre, eh ben tout est retombé. Et puis là, il a complètement explosé. Ce soir, après le chrono, et puis de savoir qu'il est deuxième, et voilà, c'est un aboutissement pour Jean-Christophe.
L'aboutissement, on l'a vu tellement à fond et se mettre à 200%, je dirais, 200% dans les Pyrénées pour garder cette place et espérer jouer le podium sur ce chrono. Et là, l'aboutissement, ben, il a craqué, beaucoup d'émotions. C'est vrai que ben, ça fait du bien parce que moi, je trouve que nos sportifs cachent beaucoup trop leurs émotions et que ben voilà, c'est naturel, c'est beau et il est arrivé à ce qu'il voulait et on peut pas y
en vouloir. La semaine qui va suivre le tour va être très dure pour les coureurs parce qu'il va y avoir une telle décompression après 3 semaines d'efforts intensifs. Ça va être dur.
Le retour au quotidien aussi.
Ouais, et puis de reprendre après les courses quelques jours après, ça va. Ouais,
ils sont sur les nerfs, mais quand ça va les lâcher.
C'est un peu comme nous de notre côté aussi. Quand la pression va retomber. Ouais.
Olivier aussi. Merci Olivier.
Une prime de fatigue.
Merci Olivier.
Juste Martial, j'entendais Fourgui parler des Pyrénées avant de complètement fondre en larmes et ne plus être en mesure de répondre. Il avait quand même précisé quelque chose, Jean-Christophe Perrault, parce qu'on lui avait posé la question quel a été le moment le plus dur. Et lui, peut-être que vous pourrez commenter cette réponse-là, mais lui a répondu que le passage le plus dur, c'était de suivre non pas Vincenzo Nibali, mais Thibaut Pinot. Thibaut Pinot a attaqué dans les Pyrénées, et dès ce jour-là, j'ai vraiment cru que je n'arriverais pas à tenir le rythme de Thibaut, une forme d'hommage déguisé, détourné à son compatriote qu'il a détrôné de la deuxième place.
Et ils seront ensemble tous les deux sur le podium demain.
Thibaut Pinot, il peut le remercier d'ailleurs, c'est grâce à Thibaut Pinot s'il a pu accéder à ce podium, parce que franchement, il l'a emmené jusqu'en haut, même si Jean-Christophe était à fond dans la roue.
Il était à la limite de la rupture, hein, Jean-Christophe.
Il est arrivé et bon, bah, c'est bien que les deux Français puissent accéder à ce podium.
Merci Olivier.
Merci à vous, bonne soirée. Lucho et moi, on est à la rupture depuis très longtemps.
Et il reste encore à revenir jusqu'à Paris.
Récupérer bien, mais attendez,
demain,
il y a encore
Olivier,
une étape, les gars.
Il y a encore une étape. Merci Olivier, merci Thierry, merci Luc aussi.
Oui.
Voilà.
Je te vois demain peut-être.
J'espère qu'on va se croiser, bien sûr, pour cette dernière étape. Évry. Paris, Évry des Champs-Élysées. Alors ça part un peu plus tard, 15h45 à peu près le départ de l'étape, je dis à peu près parce que demain il y a les photos, il y a le champagne et tout. Merci beaucoup messieurs et
merci
donc, une dernière étape demain entre
bonsoir messieurs
Évry
et salut à la caravane du Tour qui est sur la route
et
pour
qui remonte
aller
vers
à Paris,
Paris
et tout,
vers Évry,
on les embrasse très très fort parce que là ils ont des bornes,
bon
ils ont
courage,
des bornes.
Il y a encore pas mal de kilomètres. Merci messieurs, nous dans quelques instants on parle d'un autre souci, d'un autre foot, c'est à Marseille, l'Olympique de Marseille qui ne veut pas jouer au Vélodrome pour l'instant parce que la mairie impose des loyers trop chers. D'après le club, on va en parler dans un instant avec Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Et si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas, le 32-16.